Merci à BBC Afrique pour l'information. À tout à l'heure après la discothèque africaine.
Africa.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Braza.
Et ce dimanche, la discothèque africaine du doyen Manu Dibango nous plonge dans l'univers du télécrochet The Voice, dont le dénouement de la troisième édition en Afrique francophone a eu lieu samedi dernier en Abidjan avec la victoire de l'artiste Lady Shine. Une voix qui, jumelée avec celle du crooner légendaire Baïs Pinto, a fait mouche auprès du public qui l'a plébiscité devant les trois autres finalistes que sont Fogan Atsu, Karina Sen et le charismatique Giovanni Wessou. Avant de retrouver le Togolais Fogan Atsu au micro de la radio africaine, écoutons ce mythique anomé porté par l'intemporel Galier Baïs Sylvestre, plus connu sous le nom de Baïs Pinto.
No.
non, c'est Zoé. Ah, c'est Zoé, oh, oh. Priyama, le azaka, le agari, le wale, le waye, sumari, le sumari, oh. Priyama, oh, 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 oh,
sur la radio africaine 107.5 FM, toujours dans ce panorama que nous a offert la troisième édition de The Voice Afrique francophone. Et nous sommes avec un des finalistes de cette troisième édition, riche en émotions et en couleurs. Il s'appelle Fogan Atsou. Bonjour.
Bonjour Robert, bonjour pour tous les auditeurs de Radio Afrique.
Alors au début, j'ai eu envie de dire bonjour. J'aurais pu dire au fond, hein, ils m'auraient répondu, etc. Parce que Fogan, c'est l'Afrique, c'est cette Afrique particulière que l'on aime, qui se balade entre le Gantobé, comme dit King Mensah, à Cap Baraka, Papavi, c'est-à-dire entre le Togo, le Ghana, le Bénin. Finalement, déjà, qui est Fogan ? Moi, j'aimerais bien, pour ceux qui nous écoutent sur la radio africaine, une notice explicative.
Alors, Fogan, c'est un jeune Togolais, un chanteur, artiste, chanteur, compositeur. Il est également coach vocal. Fogan est actuellement finaliste à The Voice Afrique francophone. Et Fogan vient du Togo.
Voilà. Qu'est-ce qui a donné, justement, parce qu'on parle d'un coach vocal, mais on parle également de quelqu'un qui a pris les devants. Et en l'occurrence, toi, tu es sur le devant de la scène. Désormais, tu ne peux pas t'échapper. Le passage entre les deux casquettes, celle de coach vocal et celle d'artiste à part entière qui est au devant, comment est-ce que ça s'est opéré ?
J'ai commencé avec un apprentissage assez profond. J'ai toujours voulu acquérir assez d'expérience en ce que je fais. Et donc, j'ai commencé par recevoir des cours, par chercher dans des groupes musicaux. J'ai commencé par apprendre beaucoup de choses, faire des recherches personnelles à moi, puisqu'on n'a pas assez de centres de formation à créer. Et donc, je me suis formé moi-même et j'ai essayé d'enrichir cette envie de pouvoir communiquer, de pouvoir partager ce que j'ai recherché, ce que j'ai appris avec tous ceux qui ont le désir d'apprendre la voix. Et c'est comme ça qu'a commencé le coaching vocal. Et maintenant, il faut une preuve pour les étudiants vocalistes. Il faut prouver que vraiment le coach, il est au top de ce qu'il fait. Et voilà, j'ai dû dire c'est bon de participer à The Voice Afrique francophone pour pouvoir confirmer que vraiment un coach vocal est en train de démontrer tout ce qu'il a recherché durant quelques années. Voilà.
Alors tu parles de ces années, moi j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'histoire ancienne. généralement, sur le continent, ces métiers de la voix, ces métiers artistiques ne sont pas forcément vus d'un bon œil du côté des parents. Il y a toujours cette idée de non, l'école d'abord, la musique après. Est-ce que dans ton cas, ça a été différent? Est-ce qu'il y a déjà dans ton background cette essence musicale, cette essence au niveau de la voix qui viendrait du foyer familial, de l'église ou d'ailleurs?
Alors, moi, j'ai pas grandi dans une famille de musiciens. Mes frères, j'ai 5 frères, mes pères, mes mères. Je suis sorti d'une famille à notion musicale zéro. Personne dans ma famille ne fait de la musique.
C'est-à-dire que tu as été le premier?
J'ai été le premier. Et c'est dans cette optique que je dirais que c'est un don du ciel. Et donc, je dirais que même cela a été une motivation pour moi dès que j'ai découvert que j'ai quelque chose à vendre, j'ai quelque chose à partager avec le monde entier. C'est là où je me suis décidé de faire des recherches personnelles parce que c'est bien vrai que j'ai intégré un groupe musical de mon église, mais j'ai jugé que ça ne suffit pas. Il faut faire des recherches personnelles pour aller de l'avant. Voilà, c'est là où il y a eu le déclic. Le jour où j'ai décidé de faire mes recherches personnelles pour pouvoir appuyer ce que je reçois dans le groupe musical. Et au fil des années, l'expérience s'accroît, et ça s'accroît. Et je suis là aujourd'hui.
Et ton essence musicale, parce qu'on a toujours des artistes qui nous touchent plus que d'autres du continent africain, ou d'ailleurs, en l'occurrence, Fogan est un des finalistes de la 3e édition de The Voice Afrique francophone. Mais quels sont, alors je ne vais pas dire ton panthéon, parce que certains sont peut-être encore là, quelle est un petit peu la palette des artistes qui sont tes références en matière de chant?
Alors, en matière de chant, moi, je courtoie beaucoup des artistes R&B. J'aime vraiment le truc R&B. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'une musique beaucoup plus profonde, une musique beaucoup plus qui touche le social, beaucoup plus le fond de la chose. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt du côté d'une musique qui vend ce qu'on appelle la perception, ce qu'on appelle le toucher, en fait. Une musique qui va au-delà de l'âme, une musique qui touche l'identité.
C'est fort ce que tu dis, en même temps, je te coupe, parce que tu as parlé d'un univers R&B, et très généralement, très souvent, les gens ont dans l'idée que bon, les musiciens R&B, notamment de la scène américaine, sont juste des couvertures de magazines. Il y a des grands noms, tels que R. Kelly, qui a sa part de problème en ce moment, ou d'autres, mais on a toujours l'impression que tout ça est très léger. Alors, quels noms, toi, te viennent à l'esprit quand tu parles de cette perception et de ce chant de l'âme, d'une certaine façon?
Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de faire de cette musique R&B, essayer de faire un brassage avec la culture africaine, la culture togolaise, la culture éveillée, et de pouvoir transmettre, au-delà de la voix, la culture, l'identité togolaise à toute l'Afrique. Et démontrer à travers cette musique à toute l'Afrique, à tout le monde entier, que le Togo a de la valeur. Le Togo a une musique qu'on peut vendre à l'extérieur. On peut prendre de l'extérieur et faire un brassage avec notre musique, notre identité, et le promouvoir. C'est bien vrai.
C'est pour ça que tu n'as pas donné de nom.
voilà, c'est pour cela, voilà.
Alors, qu'est-ce qui va se préparer? Parce qu'on sait que, justement, Lady Shine donc, a été la lauréate de cette 3e édition, ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, à Karina Sen, à Giovanni, à toi-même. Quels sont les projets pour l'immédiat? Parce que j'imagine que tu n'en restes pas là. J'imagine que tu composes aussi, tu écris aussi. Tu as déjà, comme on appelle dans le jargon du Doha Lokwa Kanza, des gens qui vont pouvoir t'habiller musicalement. Qu'est-ce que tu prépares?
Alors, jusque-là, j'ai déjà préparer un single. En fait, moi, j'avais beaucoup de d'affection pour ma maman avant qu'elle ne me quitte le mois passé, et donc je lui avais préparé un très bon morceau, et à ma grande surprise, ce qui est arrivé à son décès, j'ai remarqué que les phrases, le texte que j'ai choisi pour pouvoir l'honorer, les textes sont en train de traduire, en fait, l'hommage que je suis en train de lui faire. Et donc, c'est du R&B mélangé avec de l'afro-pop, et que moi-même j'ai nommé mon style de musique le gospel afro, que je ferai sortir dans peu de temps.
Le gospel afro, on peut avoir une idée du titre et peut-être, pourquoi pas, un peu de cette mélodie et de te l'entendre chantonner, Fogan?
Oui, le titre de cette chanson, c'est Mama Ma Déesse. Mama Ma Déesse. C'est le refrain, ça, c'est ça va dans le sens. C'est une musique qui promouvoit la voix et également la danse automatiquement, la cadence et tout ça, ça donne l'envie de l'écouter, voilà.
Au pays de Bella Bello, il y a encore de très belles perles vocales et la grande dame de Thiévier, depuis son paradis, doit être très fière de Foganatsu qui est avec nous sur la radio africaine et dans la case du doyen Manu Dibango qui lui aussi, depuis les étoiles, doit certainement frémir et frétiller. Akwe, Akwe.
Akwe Gaga, Robert. Ça fait plaisir de partager ces instants avec vous. Merci pour l'opportunité, merci pour le privilège, Robert.
Mousso Akweo.
Nabou, chanté par Foganatsu, une reprise du grand Ismaël Lo que l'on salue s'il est à l'écoute. On marque une pause dans notre émission dominicale et on revient juste après.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio.
De retour dans la case du doyen Manu Dibango qui fait une escale aujourd'hui sur les bords de la lagune Ébriée où nous avons rencontré les protagonistes de la troisième édition de The Voice Afrique francophone au milieu d'autres artistes qui se sont retrouvés sous l'égide de la fondation Donvayi il y a tout juste une semaine, juste après la finale remportée par l'artiste burkinabé Lady Shine. Et parmi ces artistes, le fils du grand Souleymane Colly. Malik Coli, batteur inspiré, bourré de talent, que je vous propose de retrouver juste après ce petit échantillon de sa touche. Africa Radio, ce dimanche matin, dans la case du Doamanou Dibango, la Maraboutique, nous croisons des artistes. Certains ont le rêve d'être consacrés via cette émission The Voice Afrique francophone. D'autres volent de leurs propres ailes et ils ont bien raison. C'est l'histoire d'un rejeton qui a pour parenté célèbre un certain Ombré Coli, une maman Hawa qui fait des siennes entre les États-Unis, la Guinée et le reste du monde. Lui manie les baguettes avec une maestria perceptible. On dit de lui qu'il est jeune et qu'il est vieux à la fois. Il s'appelle Malik Coli. Bonjour Malik.
Bonjour. Bonjour.
Quelle joie de te retrouver ici après t'avoir vu, toi, Steven Amoakon et tous les autres, faire des vôtres sur le plateau de la RTI à ces midis. Ma première question déjà, c'est, tu es là en Côte d'Ivoire, ça fait déjà un petit moment, mais tu as un pied qui est quand même assez certain de l'autre côté de l'Atlantique.
Si, si. Donc la première fois que je suis venu, j'étais là pour un mois, je suis reparti et je suis revenu en mars. Et donc là, j'essaie vraiment de tout doucement rentrer au pays et tout doucement essayer de récupérer le patrimoine du vieux, si cela est possible. Si cela est possible. Et donc, du coup, je me suis créé une bande en fait de potes qui sont super musiciens pour essayer de créer ce que moi j'appelle de bridge work. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui cherchent à retrouver leurs racines, mais qui le font souvent d'une manière, comme on dit en anglais, c'est a little bit tacky. Et donc ici, j'essaie vraiment de faire le truc vrai, c'est-à-dire où je viens à la maison, je joue avec mes frères ici, et puis on fait la jonction avec mes frères de l'autre côté.
C'est cette idée du partage finalement de cette musique, parce que toi, tu as un créatif, on va dire, à 100%, cette âme musicale et cette touche que tu as au niveau de la musique. C'est d'abord une musique qui se conjugue au pluriel, on n'est pas du tout dans le coup de l'artiste qui fait des siennes et qui est un maestro au niveau de la batterie ou d'autres instruments. C'est une musique qui doit forcément, Malik, se conjuguer au pluriel, et quand je dis au pluriel, c'est avec d'autres musiciens, mais aussi avec d'autres couleurs, autres que celles du jazz ou autre.
Bien sûr, bien sûr. Et par exemple, ce qu'on fait ce soir, c'est un extrait de ce que je prépare pour mon album. Et il y aura en fait des textes du livre que mon père a fait sortir en 89 qui s'appelle Canicule, un livre de poèmes. Et donc en fait, il y aura en fait même, c'est pas du slam, c'est de la poésie au-dessus de la musique. Et on aura aussi des couleurs de chez nous parce qu'il y a des instrumentistes traditionnels qui seront avec nous aussi sur scène. Donc c'est vraiment ce mélange entre le moderne. Et je ne veux pas dire nécessairement l'ancien, mais beaucoup plus le traditionnel. Donc exactement, il y a beaucoup de couleurs qui vont au-delà de ma batterie et ma relation avec l'instrument.
C'est marrant parce que tu as dit le moderne, l'ancien, et tu as parlé de traditionnel. Il y a une sorte d'intemporalité dans la façon dont tu parles du traditionnel.
Bien sûr, parce que pour moi, une chance que j'ai eue, c'est de voir et d'apprendre la musique dans le milieu du jazz. Bon, avec Koteba d'abord, avec le pater. Mais quand j'ai déménagé aux États-Unis, que j'ai passé ce temps-là, là-bas, ça m'a beaucoup appris de voir comment est-ce que ce qu'eux, ils considèrent traditionnel est aussi moderne et qui est, comme tu le dis, intemporel, qui est continu. Et je pense que nous, on a essayé de couper, et quand je dis nous, je dis en Côte d'Ivoire notamment, parce qu'au Mali, en Guinée et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a cette connexion avec la culture ancienne qui n'est pas exactement celle-ci en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est très... par exemple, Abidjan spécifiquement est très cosmopolite et très évolué, donc on a tendance à un peu s'oublier. Et c'est ce que j'essaye de ramener un peu.
Pour revenir à l'instrument, pourquoi le choix de la batterie plutôt que d'autres ? C'est vrai qu'il y a une palette qui pouvait s'offrir à toi. Pourquoi la batterie ? Est-ce que la batterie était le premier instrument, je dirais, qui t'a attiré ? Est-ce que ça a été une évidence ?
Mais il y a deux choses. La batterie était le premier instrument qui m'a attiré, mais être un colis ne vient jamais sans avoir une certaine éducation sur la chose. Et donc très tôt, mon père m'a acheté des bouquins et des guides télévisés en fait, qui expliquaient qu'est-ce que c'est que la batterie. Et dans le concept même de l'instrument, j'ai été très fasciné parce que l'instrument a été découvert par des gens dans la Nouvelle-Orléans qui essayaient en fait de connecter des tambours qui avaient différentes tonalités pour passer des messages pendant l'esclavage. Ce qui fait que c'est lié à notre source. Mais en même temps, la batterie a 106, 107, 108 ans. Ce qui fait que j'arrive à évoluer en fait avec cet instrument parce que les innovations qui ont été faites sur cet instrument ne sont pas de vieilles innovations. Donc j'ai le temps de grandir en fait avec cet instrument tout en étant lié à mes racines ici.
Pour parler de ton jeu, quand on te voit sur l'instrument, il y a très réellement une symbiose. C'est-à-dire que ton corps bouge, se déplace, parfois avec cette envie presque de tendre l'oreille. Moi, j'ai même fait des photos que je te montrerai juste après l'événement. Des photos qui sont très, très, très parlantes par rapport à la manière justement dont tu communies avec l'instrument.
Si, si. Mon concept sur l'instrument est beaucoup basé sur la relation que j'ai avec l'instrument. La batterie que je joue est une batterie de 1967. Et j'ai eu une amie très, très proche à moi qui est une artiste peintre japonaise, Mizuki Nishiyama, qui a peint ma batterie. Et donc, du coup, même dans ma pratique de l'instrument, j'ai essayé de développer un mouvement corporel qui en fait me donne des possibilités qui ne sont pas nécessairement les possibilités que tu peux avoir quand tu es assis figé. Donc j'essaie de communiquer et de bouger d'une manière où j'arrive à tendre l'oreille comme tu le dis, mais aussi essayer de projeter un son parce que je propulse mes mains, je propulse mes pieds parce que comme on dit, je dis aux États-Unis, la batterie a été un instrument qui a été contenu parce que c'est un instrument des Noirs. Et même dans certains registres, la batterie n'a pas le droit de faire certaines choses. Et moi, j'essaye de prendre des libertés, vraiment d'ouvrir cet esprit sur l'instrument.
Il y a une phrase que les Américains aiment bien, alors c'est selon d'ailleurs le contexte, « break every rule ». Est-ce que toi, c'est un petit peu aussi ta ligne de conduite ?
Oui, mais avant de « break every rule », il faut connaître toutes les « rules ». Et c'est un peu ça, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont des créatifs, qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'ont, c'est-à-dire, aucun repère. Et je pense que c'est très important de passer du temps en dessous d'un mentor, passer du temps à comprendre la chose, s'instruire, et puis après, décider qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. And at that point, break the rules.
On a toujours aussi des idées, des personnalités qui, j'allais dire, que l'on suit sur le plan de l'inspiration. Au niveau justement de la batterie, est-ce qu'il y en a qui, toi, font partie de cette école que tu suis? Ou bien alors, même si à l'idée de créer ta propre école, comme on dit, ta propre vision et ton propre jeu, mais est-ce qu'il y en a qui ont trouvé grâce à tes yeux et qui t'ont inspiré?
Ben, très tôt, Paco Seri, ici, quand j'étais plus jeune. Mais plus tard, aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de chance de jouer dans le groupe de Wallace Roney, ce qui m'a fait connaître. Et dans ce registre avec Wallace Roney, j'ai beaucoup étudié parce que Wallace Roney a joué avec tous les instrumentistes batteurs qui étaient les instrumentistes que j'aimais, dont Art Blakey, Tony Williams, Elvin Jones, Max Roach, et ça continue. Et donc, de ce passage dans ce groupe, j'ai eu une éducation très formelle des rules en question. Et aujourd'hui, j'ai une certaine maîtrise et j'essaye d'ajouter un peu les trucs de chez nous. Parce qu'au départ, c'est ce que ceux-là essayaient d'acquérir, mais qui ont eu pas nécessairement des difficultés, mais n'étant pas d'ici, c'était toujours un désir de reconnexion. Et je ne me sens pas déconnecté, ce qui fait que j'arrive à venir avec un autre truc, en fait.
Eh bien, cet autre truc, nous, on l'attend avec une grande, grande, grande impatience et je suis persuadé que le résultat sera à la hauteur, justement, du talent que toi, tu mets en avant, Malik, et on ne peut que te souhaiter le meilleur.
Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
Toutes les couleurs sont des reines. Abassan, Abassan. Toutes les couleurs sont des sœurs. Abassan, Abassan. Mais la reine de toutes les couleurs. La couleur supérieure se lève et se couche.
Venez Abassan.
L'envol
soyez les bienvenus. Aquaba, 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 bassa. Everybody, you are welcome.
De Malik Coli qui était avec nous tout à l'heure, musicien qui lui aussi ne se fixe aucune limite avec la Côte d'Ivoire qui coule dans ses veines, mais également les États-Unis pour une expérience formidable. Et juste après avoir écouté ce titre de Paco Thierry, extrait de l'album Voyage, on retrouve un de ses acolytes qui n'est autre que Steven Amoakon, qu'il me tardait d'avoir au micro de la radio africaine. Et ici, on est dans la case du Douamanou Dibango, ça tombe bien. Bonjour Steven.
Bonjour Robert.
Écoute-moi, je suis très heureux de te retrouver là. On est au lendemain de la phase finale de The Voice Afrique francophone, la 3e édition. Et on est dans cette liesse, comme on l'entend d'ailleurs dans les bruits. Et je me demandais finalement, le propos de la musique, de l'instrument, de l'interprétation, il est très palpable en Côte d'Ivoire et dans cet univers. Et je découvre que toi, Malik et les gars, vous allez prester tout à l'heure. Finalement, la musique, c'est partout, à n'importe quel moment. C'est la musique qui doit toujours être devant les artistes.
On essaie de ramener une nouvelle vague, en fait, avec mes compères, en fait. Surtout avec notre génération actuelle, axée sur les instruments, sur la recherche, sur la découverte de notre culture africaine à travers différents instruments. Les instruments traditionnels, les instruments modernes aussi. Et essayer de trouver de nouvelles formules à proposer, en fait, au public. C'est un peu plus sur ça qu'on travaille en ce moment.
Et pour toi, c'est la guitare, c'est une histoire alors qu'il faut quand même mettre en avant et rappeler. Parce que je demandais tout à l'heure à Malik, pourquoi le choix de la batterie? Et il y a des aînés d'ailleurs qui nous ont dit, souvent c'est un instrument qui nous appelle. Dans ton cas, pour la guitare, ça s'est opéré comment? Parce que ça aurait pu être un autre instrument.
Mon instrument, en fait, s'est choisi lui-même. C'est-à-dire que j'ai connu un de mes meilleurs amis qui jouait de la guitare et ça m'a donné envie de commencer. Et suite à ça, mon premier instrument là-bas, c'est le piano. J'ai joué quand j'avais 9 ans, mais j'en ai joué un mois et j'ai plus fait de musique depuis. Ça m'a pas donné l'appel que j'avais besoin, même si j'en joue maintenant aujourd'hui. Mais j'ai commencé la musique à partir de ce moment-là, du coup. Et maintenant, je joue d'autres instruments, en plus de la guitare. J'ai commencé à jouer des djembé, des instruments, des gonis, sakba, kenkeni, tous les instruments traditionnels en fait, de Côte d'Ivoire, pour pouvoir explorer un peu plus justement les options d'avant pour pouvoir mieux sauter en fait, reculer pour mieux sauter en fait. Donc il y avait ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça.
Alors tu parles justement de la pluralité dans la manière dont tu explores la musique, parce que on parle de Steven Amoakon, c'est vrai qu'il y a la guitare, mais aussi tout un univers que toi tu essaies de créer, d'agencer. un univers qui est très visuel. Et c'est étonnant parce que lorsqu'on a parlé de ta musique les premières fois avec le Doha Manu Dibango, la question c'était de savoir, mais cette nouvelle génération aujourd'hui, elle ne se contente pas juste d'avoir un nom qui figure sur une pochette d'album ou au dos, mais c'est une musique qui doit se vivre et qui doit se mettre en avant, finalement une musique de l'instant.
Ouais. En fait, de nos jours, on est obligé avec les nouvelles manières de se faire voir en fait en tant qu'artiste, d'utiliser les réseaux sociaux, d'avoir d'autres skills, donc on a de savoir utiliser une caméra, savoir filmer, savoir comment projeter en fait son art de la meilleure manière en fait. Donc il y a ces choses là sur lesquelles on doit travailler en plus, sur lesquelles je pense moi et mon compère on travaille ensemble, Malik. Donc maintenant en plus de travailler sur l'aspect sonore en fait, on travaille aussi sur l'aspect visuel. C'est-à-dire dans quel endroit est-ce que ma musique va projeter le mieux, des endroits clés, des endroits qui marquent, qui peuvent représenter un peu plus ce qu'on essaie d'exprimer à travers nos sons en fait. Donc il y a ce travail là qui se rajoute en plus de ça pour pouvoir faire vivre au public une autre expérience, une expérience nouvelle en fait. Donc ça va dans la continuité de cette nouvelle vague qu'on essaie d'installer en fait.
On parle d'expérience et c'est bien parce que finalement le terme expérience de Hendrix en passant par les Hancock, en passant par les Chuck Tidjansek, en arrivant sur le terrain même, pourquoi pas aujourd'hui des artistes comme Lionel Loueke, l'expérience, tu le disais, elle doit être globale. Globale sur le visuel, globale, tu le disais, par rapport à ce que vous créez sur le champ de l'image. Global également par rapport à une identité aussi qui est la tienne, qui est une identité d'essence africaine, mais qui ne se refuse rien. Tu es quelqu'un qui est passé par un des plus grands temples en matière de formation aux États-Unis, mais qui ne le met pas du tout en avant comme une médaille. C'est-à-dire, on ne sort pas de là comme disant j'ai fait Harvard. Toi, pour toi, Steven, c'est j'ai l'impression des outils et des skills acquis, mais qui peuvent te permettre d'aller partout.
C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai utilisé cette école-là pour m'accomplir plus en tant que musicien, en tant que socialement aussi, parce que tu es obligé de rencontrer des gens, te faire un carnet d'adresses. Donc c'est des choses où tu apprends un peu l'expérience de la vie, parce que la vie aussi c'est une école. Donc apprendre ce genre de choses-là, en plus du set de compétences que je devais avoir à ma disposition. Donc, et au final, il y a des gens qui sont arrivés à des niveaux que moi je ne suis pas encore arrivé par exemple, qui n'ont pas eu besoin de faire d'école de musique pour y arriver et qui sont beaucoup plus respectés, beaucoup plus reconnus que moi par exemple. Donc je pense que c'est juste un moyen pour pouvoir accéder plus facilement à certaines connaissances, mais dans tous les cas la connaissance est toujours là, elle bouge pas, elle est toujours accessible. Il y a des gens qui utilisent des livres, d'autres vont à l'école, d'autres s'asseyent et travaillent, d'autres expérimentent, d'autres le vivent. Donc on a plusieurs manières d'arriver à un point.
Alors arriver à ce point, ça peut dire aussi, et j'en parlais une fois avec l'ami Richard Bonnat, se mettre dans son univers, se retrouver en permanence face à soi, face à sa création. J'ai parlé de Bonnat, j'aurais pu parler de Prince aussi, qui avait ce même rapport quand il était dans Paisley Park. Toi aussi, Steven, on a 95% de chances de te trouver dans ton studio. Dans ton studio ou alors peut-être très loin de la ville, dans ton élément. Tu as besoin de cette proximité pour être réellement en communion avec ta propre création.
En fait, ça vient du fait que pour pouvoir être productif, j'ai trouvé qu'il fallait faire la chose, l'art en fait, le fait de créer en fait de manière récurrente, de manière fréquente. Et pour pouvoir accomplir cela en fait, être trop, fallait créer des habitudes en fait. Et ces habitudes-là m'ont permis de. C'est pour ça que je suis toujours dans mon studio.
Certaine rigueur.
Voilà, une certaine rigueur en fait, une discipline. Une autodiscipline que tu crées et après ça devient une habitude. Au début, les premiers mois, il faut à peu près 45 jours pour créer des habitudes. Donc au bout des 45 premiers jours, c'est plus quelque chose de compliqué à gérer dans ton système. Une fois que c'est ingéré, ça devient une habitude, moins une contrainte, juste quelque chose que tu dois faire. Et comme ça fait partie de mes objectifs de vie, que je suis un artiste et que c'est mon métier, donc je me suis dit, il faut qu'il y ait un minimum de rigueur, c'est bon. D'autres ne travaillent pas, d'autres travaillent, mais bon, faut que ce soit aussi rigoureux qu'un travail. C'est juste ça. Ouais.
Alors justement, Steven Amoakon, en parlant d'échéance, j'aime pas poser cette question aux artistes et aux créateurs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et quel que soit d'ailleurs le temps, ils peuvent créer un album ou créer une scène, une scénographie quand ils veulent. Nous, on est extrêmement impatients de savoir ce qui se prépare. Tu as toi aussi ce qu'on appelle de vault, où il y a pas mal de grandes choses, mais un agenda 2021-2022, je pense qu'il y a une envie, Malik me le disait tout à l'heure, d'offrir quelque chose en retour à ce public qui vous connaît déjà sur la scène.
Bon, avec Malik, on est en train de préparer un album, son album à lui. où on est en train de finir de le construire. D'ici juin, juillet, on aura fini ça. Moi, je suis en train de travailler en ce moment sur un single qui doit sortir dans pas longtemps. J'ai pas de date encore, donc je peux pas encore annoncer. Mais j'ai un single qui doit sortir dans pas longtemps. On est encore à l'étape de studio. Et en plus de ça, ça fait à peu près 9-10 ans que je fais de la musique. Donc, au cours de toutes ces années-là, j'ai composé beaucoup de chansons. J'ai une vingtaine de chansons qui sont, une trentaine même, qui sont bien storées en fait, et à l'attente d'être libérées au bon moment. Même s'il n'y a pas vraiment de bon moment, il viendra, il se présentera. Mais d'ici cette année, ou début de l'année prochaine, ou plus tard, j'aurai un projet sorti d'ici là. Ça, c'est ce que je peux garantir.
On est dans la Maraboutique, dans la case radiophonique du Douamanou Dibango sur les 91.1 FM en Abidjan. Carte blanche à l'instant pour Steven Amoakon. Un titre, un artiste que tu aimerais écouter là, maintenant, et qu'on pourrait partager avec celles et ceux qui nous écoutent.
Osundu de The Cavemen. C'est un groupe nigérien que j'ai découvert récemment. Très bonne musique.
Et là encore, c'est un voyage magnifique. Merci à toi, Steven.
Merci à vous. Merci à vous.
Yeah, awesome.
Le groupe nigérian de Caveman avec le titre Osondu, choisi par Steven Amwakon, guitariste de très grand talent, symbole comme Malik Coli d'une nouvelle vague d'artistes qui portent le continent africain partout où ils vont. Tout à l'heure, nous écouterons le propos d'autres finalistes comme Giovanni Ruesu, mais également celui de Karina Sen. Ce sera après le bulletin de BBC Afrique. À tout à l'heure.